On a du plaisir à nous retrouver. Ça bavarde, c'est bien. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas là aujourd'hui, en vacances, avant les vraies vacances, etc. On a aussi les catéchumènes qui se retrouvent aujourd'hui en journée, je le dis en entrée du culte, et qui, eux, sont ce matin au culte à Saint-Agrève. Vous savez que chaque fois, ils voyagent pour le culte. Ils vont une fois à la paroisse de Tence, une fois à la paroisse du Mazet, une fois à Saint-Agrève, une fois ici. Voilà. Et donc, et après le culte, on se retrouve avec les catéchumènes pour notre journée caté, ici à la salle Bastianou, toujours. Donc pour ceux qui vont après passer au caté, ben vous savez qu'on fonctionne comme ça. On a le groupe des tout jeunes avec nous ce matin, les groupes de l'éveil biblique, avec Françoise et Sylvain, qui les entourent ce matin, qui les accompagnent. Ils vont rester avec nous jusqu'à la louange. Et après les cantiques de louange, ils retrouvent leur salle où ils ont leur propre programme ce matin. Voilà. Donc, bienvenue à chacun, chacune. Je vous propose, comme souvent, pas toujours, mais souvent, de nous retourner vers les uns et les autres pour nous faire un petit signe d'amitié et réaliser que nous ne sommes pas seuls ce matin. Voilà. Que vous soyez d'ici ou que vous nous rejoigniez ce matin occasionnellement, nous sommes tous ici chez nous. Voilà. Alors nous avons aussi... Quelqu'un qui nous accompagne à la musique, c'est Axel ce matin. Merci beaucoup à toi, Axel. Je vous propose de prendre un tout petit moment de silence, parce que le silence, ça fait du bien aussi. Peut-être une minute de silence, et après, Axel va commencer avec un morceau de musique. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère en humanité et notre Seigneur. Prions. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles, que je perçoive ta parole, que je l'entende avec mon cœur, et que je m'en laisse transformer. Ouvre ma bouche, afin que je puisse te louer et chanter tout ce que tu as fait. Par ton esprit, rends-moi capable de redresser et d'encourager, que mes paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison et de consolation, de libération et de réconciliation, des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire s'entrouvrir le ciel et de permettre aux autres de réaliser combien leur vie est précieuse. Amen. C'est une prière d'Anselm Grün, moine bénédictin allemand. Et je vous invite à chanter. Chante Alléluia au Seigneur. C'est le 41-42 pour ceux qui veulent suivre dans leur recueil de cantiques. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à vous déplacer pour prendre un recueil. Et je vous invite à vous lever. Pour louer l'Éternel, ça veut dire dire merci et nous réjouir de tout ce qui nous arrive de bon et de beau dans notre vie. Pour louer l'Éternel, nous restons debout. Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et le silence. Merci pour le miracle de chaque jour nouveau. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre, malgré aussi les choses difficiles et les détresses. Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Et que ces mille merci se transforment en une immense action de grâce quand je me tourne vers toi, la source de toute grâce et le rocher de ma vie. Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. Alléluia. Et nous chantons ensemble deux chant ce matin de louange. Le premier, c'est « Roi des rois ». Alors, vous le connaissez. Aujourd'hui, alors je vous le dis, vous ne serez pas là tout à l'heure, mais aujourd'hui, on va parler d'un grand roi pendant le culte, hein, du roi Salomon. Voilà. Alors, on va chanter « Roi des rois ». Tu nous joues une première... ligne et puis voilà. Maintenant.
Jésus, Prince de paix, Alléluia. Jésus, Prince de paix,
trop peu, trop court. Alors, on va chanter « Les cieux et la terre ». Alors, c'est un très beau cantique, enfin, c'est mon avis en tout cas. C'est le 41-17. « Les cieux et la terre », vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est important d'apprendre des nouveaux cantiques. 41-17. Et on va chanter les strophes 1, 2, 3 et 4. Axel va nous jouer un début et puis on chantera ensemble. Il faut le chanter ici quand vous vous promenez dans les prés. Chantez ce cantique, imaginez-vous, c'est une merveille. Alors je vous invite à vous asseoir et les enfants nous disent au revoir, ils vont retrouver leur groupe.
Recueillons-nous dans la prière. Père, tu sais quel est, dans nos vies, le poids de nos craintes, de nos soucis, de nos passions. Tu sais quelle est notre difficulté à regarder au-delà des réalités quotidiennes qui limitent et cernent notre horizon. Accorde-nous par ton esprit une espérance qui l'emporte sans cesse sur nos lassitudes et nos découragements, qui nous délivre de notre souci de nous-mêmes. Une espérance qui nous entraîne à vivre dans la perspective et le service de ton royaume. Nous chantons le 71-18, la strophe 2, Jésus le Christ, lumière intérieure. Thank you. L'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. Amen. Nous chantons le 61-37, Ô ma joie et mon espérance.
Nous allons nous mettre à l'écoute de l'Écriture et avant cela, nous voulons prier. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux pour notre vie. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur, que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter et méditer ce matin devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Et avant d'entrer dans l'écoute et la méditation des textes bibliques, je vous invite à chanter le psaume 33. Et pour cela, nous voulons nous lever. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5. Psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle.
Thank you.
vous invite à vous asseoir. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous chantez un psaume, de vous imaginer toutes les générations et générations qui ont chanté ces psaumes et qui les ont portés. Voilà, en tout cas, moi j'y pense souvent. Alors, chères toutes et tous, je vous propose ce matin, je n'ai pas pris un des textes qui nous sont proposés pour ce dimanche, mais je vous propose d'écouter un texte phare de la Bible, il y en a beaucoup, heureusement, sinon on serait déjà arrêté de lire la Bible. C'est un texte phare qui se trouve dans le Premier Testament et je vous ai déjà dit tout à l'heure que ce serait un texte qui parle du roi Salomon. Donc il se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 3. C'est un texte incontournable pour qui veut connaître les grandes histoires de la Bible. Et c'est comme pour un très bon livre ou un très bon film, même si on le connaît, ce texte, il est toujours intéressant de le réentendre. Alors, ce texte est intitulé souvent « Le jugement de Salomon ». Est-ce qu'il y aurait parmi nous ce matin, et surtout, ne soyez pas timides, est-ce qu'il y en aurait parmi nous ce matin qui ne connaîtrait pas ce texte ou qui s'en souviendrait pas vraiment ? Est-ce qu'il y en a ? Ou est-ce que tout le monde connaît ce texte ? Il y en a qui ne le connaissent pas. Alors ça, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Parce que du coup, je peux faire ce que j'ai prévu. Je peux suivre ce que j'ai prévu. Voilà. Je demande cela parce que je vais commencer à lire ce texte et puis, à un moment donné, je m'arrêterai de le lire. Et je demanderai à ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne s'en souviennent pas de me dire comment ils imaginent que ça continue. Et c'est formidable parce que pour nous, je dis nous, qui connaissons ce texte, quelque part, c'est un texte formidable quand on ne connaît pas la suite. Et quand on le connaît, ben, voilà. Donc, vous allez m'être mis au travail. Donc, je vous lis maintenant le début de cette histoire. Un jour, deux prostituées viennent se présenter devant le roi Salomon. La première dit « Que mon roi veuille bien m'écouter, moi et cette femme, nous habitons la même maison, j'ai mis au monde un fils dans la maison à un moment où elle était là. Deux jours plus tard, elle aussi a mis au monde un fils. Nous vivons seuls dans cette maison, il n'y a personne d'autre que nous deux. Or, cette nuit, le fils de cette femme est morte. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi. Elle a couché dans son lit. Puis elle a placé son fils qui était mort contre moi. Ce matin, quand je me suis levée pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort. Je l'ai regardé attentivement à la lumière et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. À ce moment-là, l'autre femme s'écria, « Ce n'est pas vrai. C'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. » Mais la première reprit, « Non, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. » C'est ainsi qu'elle se disputait devant le roi. Salomon prit la parole et déclara, « L'une d'entre vous dit, « L'enfant qui est vivant, c'est mon fils, et c'est ton fils qui est mort. » L'autre répond, « Non, c'est ton fils qui est mort, et c'est le mien qui est vivant. Eh bien, voici ce que j'ordonne. » Voici ce que j'ordonne. Qu'est-ce que vous imaginez que le roi a pu ordonner en tant que roi et juge? Parle plus fort, Willy. Tu veux dire que chaque... Si j'ai bien compris, que chaque mère devienne le fils du fils vivant. Qu'elle élève ensemble, puisqu'elles habitent toutes les deux dans la même maison, voilà, qu'elle élève ensemble. Ça aurait pu être une solution très pacifiste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres idées de ceux qui ne connaissent pas ce texte ? Oui. Il peut trancher en faveur d'une de manière aléatoire. Je répète pour que tous puissent l'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres idées encore ? Ah, voilà. Cet enfant, c'est pour le roi. Puisque vous vous disputez, c'est moi qui vais l'élever. Pourquoi pas ? Tout à fait. Je pense que ça aurait pu être possible, hein, comme solution. Vous avez épuisé toutes les solutions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient d'autres choses à dire ? Si vous avez quelque chose et que vous hésitez, alors allez-y. Oui. Oui, c'est-à-dire de la solution aléatoire choisie pour l'une ou l'autre, mais de faire quelque chose en contrepartie, hein, voilà, parce qu'on a été choisi. D'accord, alors maintenant je vais vous lire la suite. Donc ceux qui connaissent, vous allez re-entendre, et ceux qui ne connaissaient pas, ben, c'est une belle surprise. Eh bien, voici ce que j'ordonne. Apportez-moi une épée. Dès que l'on eut apporté, le roi ajouta, coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en la moitié à chacune des femmes. La mère de l'enfant vivant, poussée par un profond amour pour son fils, s'écria, mon roi, qu'on donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout qu'on ne le fasse pas mourir. L'autre femme, elle disait, coupez l'enfant en deux, il ne sera ni à moi ni à elle. Alors le roi déclara, ne tuez pas l'enfant, remettez-le à la première des deux femmes, car c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. Tous les Israélites apprirent comment Salomon avait rendu justice à cette occasion, et ils furent remplis d'un profond respect envers le roi. En effet, ils avaient compris que Dieu lui-même l'avait rempli de sagesse pour rendre justice. Voilà. Cette histoire. Alors, je vais vous poser à tous maintenant la question, comment cette histoire, elle résonne en vous ? Est-ce qu'il y a une émotion qui monte ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme « ça me parle beaucoup » ou « je suis offusquée, je comprends pas » ? Est-ce que vous avez envie de dire quelques phrases à ce sujet ? Je vous invite à prendre la parole librement. Oui. 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 Alors, je vais le redire, Jackie, résumer ce que tu as dit, mais les autres, si vous prenez la parole, tournez aussi vous vers les autres. Jackie a dit une phrase du début qui me parle personnellement aussi beaucoup. C'est par une violence extrême, quelque part, qu'on arrive à un jugement, à une solution de sagesse. Mais ça reste quand même quelque chose de marquant et pas tout à fait... Tu parles de la grande sagesse du roi Salomon, c'est pour ça qu'il est connu, mais ça laisse un peu un sentiment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? D'autres réactions? Tourne-toi aussi un peu vers les autres. Oui. Oui, oui, je comprends très bien. Oui, oui, oui. Voilà, il y en a une qui ment, a priori, et le roi l'a, par son stratagème, l'a détecté. Mais, comme tu dis, on n'est pas obligé de penser qu'une ment, vraiment, elle est peut-être dans le déni, tu disais, hein, que ce n'est pas un mensonge, que ce n'est pas de la méchanceté, mais que c'est plutôt un problème dans lequel elle se trouve. Hein, et du coup, voilà. Oui. 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 Pour vivre, notre enfant doit nous être enlevé. Oui, oui. Tout à fait. Oui. Thierry, lève-toi peut-être et parle fort. Oui, ben, merci Thierry, parce que c'est aussi ce que j'ai pensé aussi. Oui, tu dis qu'on n'entend pas, il faut répéter, voilà, que Thierry dit qu'il a été pris par une profonde émotion à l'écoute de ce texte, et il s'est demandé pourquoi, je le résume, hein, et... Il s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose d'une très grande force dans ce qui arrive, et c'est la parole de Dieu, en fait. Hein, c'est comme une parole de Dieu. Et j'ai dit que je rejoins aussi ce... Voilà, je vous propose maintenant que je vous dise un petit peu aussi mes réflexions, mais il y a encore une demande de parole. Qui ? Mireille, vas-y, lève-toi. Ouais. Voilà, donc accepter de perdre l'enfant pour le retrouver. Et ça peut être aussi autre chose qu'un enfant, oui. Voilà. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas de père qui est présent, hein, évidemment. Ça aussi, ça interroge beaucoup, évidemment. On nous parle de deux femmes qui sont prostituées, donc en général, il n'y a pas de... Enfin, on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de père présent. Mais ça interroge hein, aussi. Alors, on assiste donc, même moi quand je l'ai relu maintenant à haute voix devant vous, j'avais beaucoup d'émotions. C'est un texte qui ne laisse pas indifférent. C'est une scène tragique. Et juste pour rappeler, Salomon en hébreu, Shlomo, c'est le nom qui vient, c'est la même racine que le mot shalom, paix. Hein, donc c'est la paix, alors qu'on a justement parlé, notamment toi, c'est où il y a quand même un peu une violence hein, dans ce qui est dit. Mais voilà, c'est la paix. Et Salomon est connu pour sa grande sagesse. Vous savez, alors je vous rappelle pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très intéressant, donc je vous invite vraiment, quand vous rentrez, vous lisez votre Bible, chapitre 3, premier livre des rois. Et alors, il y a, juste avant notre texte, il y a un passage où on nous parle que justement, Salomon vient accéder au trône, on nous dit qu'il est encore très jeune, on parle même d'un adolescent. Et il a un rêve, Salomon. Dans ce rêve, il demande à Dieu de lui donner de la sagesse pour gouverner le peuple. Il se sent vraiment investi d'une grande responsabilité. Il demande la sagesse. Il demande un cœur capable d'entendre pour juger, pour discerner le bien du mal. Sagesse et paix réunies en la personne de Salomon. Et donc notre histoire se situe tout juste après ce rêve et dans le rêve, on nous dit aussi que Dieu le lui accorde. Et justement, il le lui accorde et il est très reconnaissant que Salomon n'a pas demandé richesse, un pouvoir énorme, quelque chose qui, ou richesse personnelle, ou domination sur ses ennemis. Non, il a demandé un cœur capable d'entendre pour juger le bien et le mal. Et donc Dieu lui dit, tu l'auras, mais par-dessus tout, tu auras aussi encore les autres choses que tu n'as pas demandées. Voilà, c'est ce qui précède notre texte. On peut se poser beaucoup de questions au sujet de ce jugement. Et il y a dans le texte, quand on le lit, quand il est traduit de l'hébreu, par exemple, par quelqu'un qui est très proche de l'hébreu, comme Chouraki, on peut entendre un aller-retour incroyable des deux femmes. C'est très saccadé, vous l'avez entendu, hein. Il est à moi, non, il est à moi, etc. Et puis Salomon répète ses paroles. Tu dis, il est à toi, elle dit, il est à elle. Enfin bon, vous voyez, c'est très, très dense comme rythme. Et alors, il vient avec la proposition d'apporter une épée qui tranche. Et il y a dans la Bible d'autres moments où on nous parle de la parole de Dieu qui tranche. Dans l'épître aux Hébreux, par exemple, c'est un exemple, il est dit, la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Thierry, c'est exactement ce que tu as entendu, je crois. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a ressenti justement dans la lecture de ce texte, exactement ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux? Alors, on parle beaucoup de la sagesse du roi, on parle évidemment de son comportement, mais je voudrais aussi qu'on regarde un petit peu les deux femmes, et justement, il y a quelques femmes qui l'ont fait. Alors, l'histoire se passe la nuit, elles sont toutes les deux, la femme qui raconte qu'elle dormait, donc elle vient pour plaider sa cause, et donc il y a cette, comme je disais tout à l'heure, cet échange très vif, très, très saccagé entre les deux femmes. Et alors, la question à qui est cet enfant ne peut pas être résolue de manière normale, parce qu'on ne sait pas, il y a un tiraillement terrible. On ne pourra jamais vraiment discerner, trancher cette question posée de cette façon-là. Il faut donc trancher autrement. Donc il faut couper. Hein, il faut trancher, pas l'enfant, mais le problème. Et le roi qui a reçu de la part de Dieu, qui est force de vie, un cœur qui écoute, provoque par sa parole tranchante, qui lui vient de Dieu, le déplacement du problème. Quelque chose de nouveau va se passer justement. Une des deux femmes est émue jusqu'aux entrailles, on nous dit. Et on nous dit ça aussi, donc c'est la mère biologique qui est émue jusqu'aux entrailles. On nous dit ça des fois de Dieu. On nous dit ça aussi de Jésus qui est émue jusqu'aux entrailles. C'est quelque chose qui va très profond. Hein, donc la question se déplace. Elle n'est plus à qui est cet enfant. Ce n'est pas l'origine biologique qui détermine qui est la mère, mais qui est pour cet enfant. Hein, vous connaissez peut-être aussi le beau film « Va, vie et deviens », hein, où aussi une mère donne son enfant, le laisse partir pour qu'il puisse vivre. Parce que s'il restait avec elle, très probablement il mourra. La question n'est pas qui est à la propriété, mais qui en prendra soin. Ce n'est pas l'origine de l'enfant, mais son devenir qui compte. Alors, la question s'est donc déplacée. Le roi pourra trancher, discerner, et il décide de donner l'enfant à celle qui a dit « Donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas. » C'est elle qui est la mère. Et c'est la première fois qu'on entend d'ailleurs dans ce texte le mot « mère ». Et le peuple qui l'a entendu voit cette décision comme une décision de grande sagesse. Alors j'ai aussi, comme tu l'as dit Félicia, j'ai aussi du mal à chaque fois que je lis et que je re-entends ce texte, avec le rôle de la mère suite à la mort de son bébé, qui s'accapare l'autre bébé pour remplacer son enfant mort et qui le préférerait le voir mourir, cet autre bébé, que de le laisser à sa mère biologique. C'est violent. Et on peut évidemment penser à une personne qui est à bout, hein, qui est peut-être dérangée dans sa tête et qui est prête à tout, même à tuer indirectement, du coup. Ce n'est pas elle qui tuerait, mais voilà. Il y a bien sûr des personnes qui vont jusque-là, malheureusement. Mais aujourd'hui, je vous propose aussi ce qui m'est venu en le re-entendant. C'est aussi une lecture un peu psychologique, hein, de ce texte. Si ces deux femmes représenteraient deux parts de notre personnalité, cette femme qui est soi-disant la mauvaise mère dans l'histoire pourrait représenter ce qui nous guette chacun et chacune en tant que mère, père, parent ou aussi en tant que personne qui aime une autre personne. Cette mère pourrait représenter la part en nous qui a tendance à vouloir trop aimer, trop posséder, trop posséder l'enfant ou notre conjoint ou un ami. Posséder au point de l'étouffer, ce qui est arrivé dans ce texte. Elle s'est couchée sur elle, elle l'a étouffée, au point de ne lui laisser point de place pour s'épanouir, pour grandir, en personne certes proche, mais indépendante. C'est cette part en nous qui pourrait vouloir posséder, enfermant en disant « il ou elle est à moi », au lieu que je me pose la question « qu'est-ce que je peux pour lui ? Qu'est-ce qui est bon pour lui ou elle ?» Et je crois que nous sommes tous, à un moment donné de notre vie, à cette situation critique, soit par rapport à un enfant, un conjoint, à une autre personne, à un projet peut-être, où il faut qu'on accepte de lâcher prise, de lâcher et de le laisser partir. Et donc, je crois que ces deux femmes représentent pour moi aussi, pas seulement bien sûr, mais aussi ces deux parts en nous. Cette part qui peut aimer pour l'autre, pas pour nous-mêmes, mais pour l'autre, et cette autre part qui veut enfermer, posséder au point peut-être d'étouffer. Et donc je crois que nous sommes tous appelés à entendre que à ne pas repousser cette autre mère, ça ne nous concerne pas, mais c'est quelque chose qui nous concerne pour notre vie, sa posture. Et donc, dans notre prière personnelle, nous pourrions aussi demander à Dieu, comme Salomon l'a fait, demander que notre cœur puisse s'élargir toujours davantage et continuer à grandir en nous et qu'il puisse grandir pour les autres et pas seulement pour nous-mêmes. Amen. Je vous invite à dire ensemble notre foi. Et pour cela, je vous invite à vous lever. En fait, j'ai oublié de la mettre, la confession de foi. Je suis désolée. J'ai oublié de la mettre, donc je vais encore... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait volontaire pour venir devant pour nous la lire? Que ce ne soit pas moi qui la lise. Il y a un volontaire, une volontaire? Willy, allez. Que ce ne soit pas toujours la voix de pasteur qui parle.
Je crois en Dieu qui est vie. Malgré les peines et les souffrances, il suscite l'espérance. Malgré les échecs et les peurs, il conduit vers la liberté. Malgré les haines et les guerres, Il crée la réconciliation et la paix. Je crois en Dieu qui est vie. Malgré nos indifférences et enfermements, il rend possible la rencontre et l'amour. Malgré nos ignorances et nos incrédulités, il donne sens à notre vie. Malgré la mort qui est en nous et autour de nous, il nous appelle inlassablement à la vie, à l'amour, à la fraternité. Je crois en Dieu qui est vie et qui nous donne la vie.
Et alors nous voulons chanter « Gloire à ton nom, ô Dieu de paix ». C'est le cantique 41-02, strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir, Périne.
C'est maintenant le temps des annonces. Nous remercions Axel pour son accompagnement musical et Esther pour sa prédication. Mardi, le groupe Tricoté se réunit à partir de 14h, salle adhérent. Samedi 21 mai, il y aura une pièce de théâtre jouée par la troupe AMA Théâtre, ici au Temple à 20h. La pièce s'appelle Le Visiteur. Elle est d'Éric Emmanuel Schmitt, donc on espère vous y voir nombreux.
Cette année, un voyage consistorial est organisé. Merci. Donc cette année, un voyage consistorial est organisé par la paroisse du Mazet-Saint-Voix. Ce voyage aura lieu en Espagne du 26 septembre au 2 octobre. Il reste quelques places, donc si vous voulez, je vous donnerai des précisions à la sortie. Merci.
Et le vendredi, comme chaque vendredi, nous avons la halte prière à 11h. C'est une pause d'une demi-heure environ, un moment où nous écoutons un court passage biblique, nous chantons et nous prions, après avoir partagé quelques nouvelles. Nous ne sommes pas très nombreux, de 5 à 8, Mais vous serez accueillis avec joie si vous voulez venir nous rejoindre. Nous avons pensé que nous pourrions porter devant Dieu les intentions de prière que vous pourriez nous confier, soit en nous le disant à l'un ou l'une d'entre nous, ou Esther, soit en glissant un petit message dans une boîte que nous mettrons au fond du temple. Elle sera placée là et vous pourrez mettre vos intentions. Et avec cette boîte sera également affichée une feuille sur laquelle vous pourrez lire plus de détails et de réflexions sur la prière, justement.
C'est maintenant le temps de l'offrande. N'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux.
Unissons-nous dans la prière. Jésus-Christ dit ceci, « Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'imaginent qu'à force des paroles, Dieu les exaucera. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait de quoi vous avez besoin. » Avant que vous le lui demandiez. Nous prions les uns pour les autres et pour ceux qui nous sont chers. Nous prions pour le lieu où nous vivons, pour ceux que nous rencontrons, connus et inconnus. Nous prions pour le monde, pour tous ceux qui occupent des positions de pouvoir et d'autorité, pour tous ceux qui mènent un combat de justice et de paix, pour tous ceux qui souffrent et pour ceux qui font souffrir. présentons librement notre prière. Dieu de vie et de grâce, tu nous appelles à la vie et nous te demandons ce jour aussi un cœur qui écoute, tourné vers les autres. Et ensemble, nous voulons aussi prier avec les mots de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous voulons recevoir ensemble des paroles de bénédiction et d'envoi et chanter encore un cantique. Recevons ces paroles d'une bénédiction irlandaise. Que la route s'ouvre à ton approche. Que le vent soit toujours dans ton dos, que le soleil inonde et réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans ton champ, que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains. Allons en paix. Amen. Toi, lève-toi et va au nom du Christ. C'est le cantique 62-86, les strophes 1 et 2. Dimanche à chacun, chacune, bonne semaine. À bientôt.